VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Niamey. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Lomé au ralenti suite à l'appel de l'opposition togolaise à contester le pouvoir en place. Renforcement des mesures sécuritaires dans les régions anglophones du Cameroun. Préparatifs en Catalogne pour le référendum d'autodétermination interdit par Madrid. Et puis nous irons à la découverte de Soumedioune à Dakar au Sénégal.
Nos ancêtres ont exercé la pêche sur ce site pendant longtemps.
Nous écouterons Sedina Bagay, notre correspondant, qui nous fera découvrir ce village traditionnel de pêcheurs. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, les rues de Lomé, la capitale togolaise, étaient calmes ce matin. Les commerces étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de l'opposition à stopper toute activité pour protester contre le pouvoir en place. Morgane Guiriac.
Une coalition de 14 partis fait pression sur le président Fornia Simbé pour demander un retour à la constitution de 1992, une limitation rétroactive du mandat présidentiel et le départ du président au pouvoir depuis 2005. Conséquence, les grands marchés sont restés fermés dans le quartier contestataire de Baie. La moitié des magasins sont restés rideaux baissés. Nous devons tous nous mobiliser pour faire partir ce régime. Nous sommes fatigués, déclare une militante de l'Alliance nationale pour le changement, partie de l'opposition. Cependant, le mouvement a eu moins d'impact que la précédente journée de grève fin août. Les Togolais avaient manifesté en très grand nombre à travers le pays pendant plusieurs jours de marche, scandant 50 ans c'est trop ou encore Fort doit partir.
Au Nigeria, les procès de 1600 membres présumés de Boko Haram qui doivent s'ouvrir le 9 octobre, ces procès se dérouleront à huis clos. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement les exécutions sommaires de djihadistes présumés et le maintien en détention de milliers de personnes sans recours à un avocat. Au Cameroun, des mesures sécuritaires et restrictives entrent en vigueur dès ce soir dans les deux régions anglophones du Cameroun, et ce jusqu'au 2 octobre prochain. Ces mesures ont été prises sur ordre du président Paul Biya. Les séparatistes anglophones veulent proclamer l'indépendance ce dimanche. Le point depuis Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les frontières maritimes et terrestres entre le Cameroun et le Nigeria seront fermées. Une mesure qui sera levée le 2 octobre à 6h temps universel, selon les termes des décisions prises par les deux gouverneurs des dites régions. À l'intérieur des deux régions anglophones, le transport interurbain est suspendu dès ce soir. Les activités des quais et ports seront en arrêt. Pour les individus, tout regroupement de plus de 4 personnes est interdit. Les bars, snack bars et boîtes de nuit devront être clos. Pendant 72 heures, les parents ont été invités à garder leurs enfants à la maison. Seul vent de liberté dans les deux régions anglophones, le maintien de la connexion Internet, a annoncé la ministre des Postes et Télécommunications. Les activistes anglophones de plus de l'étranger semblent pas impressionnés par les mesures restrictives en vigueur dès ce soir et appellent les populations à les braver. Yaoundé, Emmanuel Jolutap, VOA Afrique.
Au Burundi, le Conseil national de la communication a suspendu pour 3 mois la CCIB FM+, la radio de la Chambre de commerce du pays. Selon son directeur, la radio est sanctionnée pour avoir diffusé le 18 septembre dernier un éditorial qui a déploré le silence du gouvernement après le massacre de réfugiés burundais dans la localité de Kamoyola en RDC. Burundi toujours, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, malgré le refus de Bujumbura. Cette commission n'a jamais été autorisée à se rendre sur place. L'ONU a demandé aujourd'hui à la République démocratique du Congo de publier dès que possible un calendrier électoral réaliste. Et ce, à l'approche de la date butoir du 31 décembre pour organiser la succession du président Joseph Kabila. La résolution déposée par la Tunisie au nom des pays africains a été adoptée par 45 voix pour par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À noter, les États-Unis ont voté contre et la Corée du Sud s'est abstenue. Le pasteur et opposant zimbabwéen Evan Mawarire a annoncé avoir été acquitté pour incitation à l'émeute alors qu'il s'était adressé en juin à Harare à des étudiants qui manifestaient contre l'augmentation des frais universitaires. Evan Mawarire est toujours jugé pour tentative de renversement du gouvernement de Robert Mugabe et il risque jusqu'à 20 ans de prison. À Lusaka, en Zambie, des heurts ont opposé la police à des manifestants qui dénonçaient la corruption du gouvernement et l'utilisation des ressources publiques. Ces manifestations ont eu lieu au moment même où le ministre des Finances, Félix Moutati, présentait son projet de budget au Parlement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, à deux jours d'un référendum d'autodétermination interdit par Madrid, le gouvernement régional catalan annonce qu'il mettra en place 2315 bureaux de vote, dont 207 à Barcelone. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Le porte-parole du gouvernement régional, Jordi Turull, a précisé que 5,3 millions d'habitants étaient appelés aux urnes dans cette région fortement divisée sur la question de l'indépendance. Les forces de l'ordre ont saisi des millions de bulletins de vote et la justice espagnole a ordonné la fermeture des lieux devant accueillir les bureaux de vote. Plusieurs personnes sont sous contrôle judiciaire et des dizaines de sites internet ont été bloqués. Les autorités catalanes ont dissous la commission électorale afin d'éviter des amendes de 12 000 euros par jour imposées par la justice. Le ministère de l'Intérieur a insisté pour que la police régionale intervienne, mais a envoyé dans la région des milliers d'agents de la police nationale et de la garde civile. Craignant des troubles, les partisans du maintien de la Catalogne en Espagne ont annulé une manifestation prévue dimanche, le jour du référendum.
En Birmanie, la situation de la minorité musulmane Rohingya ne cesse d'être dénoncée. Près de 90 organisations non gouvernementales parlent de crimes contre l'humanité et réclament que l'ONU étudie l'imposition d'un embargo sur les armes. Le point avec Ekia Badou.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé à la Birmanie l'arrêt des opérations militaires, un accès humanitaire sans entrave dans l'ouest de la Birmanie et le retour des réfugiés dans leur zone d'origine. Jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé sa première réunion depuis le début, fin août, de l'exode vers le Bangladesh de plusieurs centaines de milliers de Rohingyas. Cette communauté musulmane fuit une vaste opération militaire dans l'État Rakhine, dans l'ouest du pays. 88 ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, dénoncent ces atrocités commises par les forces de sécurité comme relevant de crimes contre l'humanité. Elles demandent à l'ONU d'adopter une résolution sur la Birmanie avec un embargo sur les armes et des sanctions ciblées contre les individus responsables de crimes et d'abus sérieux contre les civils. La France veut pour sa part organiser une réunion publique avec les ONG et la participation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, auteur d'un rapport qui alertait sur la situation tendue et le manque de liberté des Rohingyas.
Au Canada, la vague d'arrivée de migrants franchissant la frontière avec les États-Unis pour demander l'asile a ralenti, selon la police fédérale canadienne. À ce jour, ce sont 2000 personnes qui attendent de rencontrer les autorités frontalières qui vont évaluer leur demande d'asile. En Afghanistan, le groupe État islamique a revendiqué un attentat suicide qui a fait 6 morts et une trentaine de blessés devant une mosquée chiite du centre de Kaboul à l'issue de la grande prière du vendredi. En Syrie, au moins 73 membres des forces du régime syrien ont été tués hier dans des attaques surprises du groupe État islamique, selon l'OSDH. L'organisation ultra-radicale, acculée de toutes parts en Syrie, a revendiqué l'attaque. L'ONU ouvre une enquête sur les crimes au Yémen. Après d'âpres et longues négociations, le Conseil des droits de l'homme a décidé d'envoyer des experts chargés d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre au Yémen. Et puis Israël célèbre Yom Kippour, le grand pardon, jour le plus important du calendrier juif, marqué par le jeûne. Tout travail est interdit durant ce jour sacré, le trafic aérien a été totalement interrompu et les radios et télévisions sont muettes. Tous les magasins ont bien entendu fermé leurs portes. Les territoires palestiniens ont été bouclés pour prévenir tout attentat. Je vous rappelle donc les principaux titres de cette édition. Lomé au ralenti suite à l'appel de l'opposition togolaise à contester le pouvoir en place. Le renforcement des mesures sécuritaires dans les régions anglophones au Cameroun. Et puis les préparatifs en Catalogne pour le référendum d'autodétermination interdit par Madrid. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
La récolte de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a grimpé de 28,5% sur la campagne 2016-2017 pour s'établir à 2,15 millions de tonnes. Les exportations ont augmenté de 23,3% à 1,9 million de tonnes. Cette production record a permis d'augmenter le revenu brut global des producteurs de 28,6% à 2,13 milliards de francs CFA. Mais la dernière campagne a été marquée par une crise profonde à cause de la chute des cours mondiaux de plus d'un tiers, d'après le Conseil Café Cacao. Poumon économique et plus grande ville de Guinée équatoriale, la Bata subit des coupures d'électricité depuis près de 4 semaines en raison de la réparation de la centrale hydroélectrique de Djibléo. Des hôtels utilisent des groupes électrogènes et des lampadaires fonctionnent par intermittence. Autre conséquence de cette coupure d'électricité, le vol de début de soirée qui relie Malabo à Bata ne peut plus atterrir faute de lumière à l'aéroport. L'économie de Maurice a progressé de 4,1% au deuxième trimestre de cette année grâce à une hausse de 7% des investissements et au secteur de la construction. Le pays tente de diversifier son économie dont les piliers sont le sucre, le textile et le tourisme en ciblant les services bancaires offshore, l'immobilier et le tourisme médical.
Et maintenant la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Bien sûr, du foot avec les demi-finales de la Ligue des Champions.
Et oui, dès ce soir, l'USM à Alger qui reçoit le Wydad Casablanca. À suivre l'autre demi-finale ce week-end, l'Étoile Sportive du Sahel contre Al Ahly d'Égypte.
Le dernier carré aussi en Coupe de la Confédération.
Deux rencontres dimanche, Mazembe contre le FUS de Rabat. Et puis le match décalé en Afrique du Sud entre Supersport United et le club africain. Un match décalé en raison de l'arrivée tardive des Tunisiens.
Aubameyang de retour avec le Gabon en sélection.
En retrait de la sélection depuis plusieurs mois, Pierre-Emerick Aubameyang annonce qu'il est disposé à revenir en sélection pour le prochain match des éliminatoires du Mondial 2018 face au Maroc. Ce sera le 7 octobre. J'avais été clair avec la fédération et le coach, ce n'était pas le moment pour moi. J'étais dans une phase difficile mentalement, en plus avec le mercato, mais je vais revenir en sélection pour le prochain match. Il n'y aura plus de mésentente là-dessus, avait déclaré l'attaquant du Borussia Dortmund après la défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions. Aubameyang, très en forme, a inscrit 13 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Troisième du groupe C à un point du Maroc, les Panthères gabonaises sont encore dans la course à la qualification.
Un nouveau visage pour le sport kényan dans la tourmente.
L'ancien détenteur du record du monde du marathon, Paul Terga, a pris la tête du comité olympique kényan avec la lourde tâche de débarrasser le sport kényan du dopage, de la corruption et des luttes intestines.
Enfin, cette nouvelle compétition cycliste en Afrique.
Oui, l'Union cycliste internationale vient de valider la création d'une nouvelle épreuve par étape la saison prochaine sur le continent africain. Le Tour de l'Espoir qui se déroulera au Cameroun fera partie du prestigieux calendrier de la Coupe des Nations 2018 réservée aux moins de 23 ans. Elle a pour ambition de faire participer au maximum de jeunes coureurs africains. Ces derniers auront ainsi l'occasion d'affronter les meilleurs espoirs mondiaux, y compris ceux qui sont membres d'une équipe World Tour, la première division du cyclisme international.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le centre et le nord du Mali sont de plus en plus les théâtres d'attaques récurrentes des groupes djihadistes. Dans le même temps, Bamako essaye d'appliquer les accords d'Alger censés ramener la paix dans le pays. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face aux attaques terroristes? Kadia Traoré s'est entretenue avec Tienan Koulibaly, le ministre malien de la Défense, actuellement à Washington.
Nous avons des camps militaires dans les zones qui sont les plus concernées, c'est-à-dire le centre du pays puis le nord du pays. Chaque groupe de soldats que nous faisons monter pour les opérations, il y en a qui sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Les services de renseignement essaient d'identifier les mouvements des groupes terroristes. Mais la grande difficulté, le terrorisme, c'est son caractère asymétrique. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont semblables aux populations. Et ils arrivent dans les villages, les gens ne les reconnaissent pas des fois, les gens, même lorsqu'ils les reconnaissent, ils n'osent pas les dénoncer. Certains d'entre eux recrutent les jeunes à coups de millions. Le G5 Sahel, c'est que en dehors de ce que chaque pays fait individuellement, parce que le terrorisme n'a pas de patrie, il est partout. Nos cinq pays ont décidé de mutualiser leurs efforts.
On parle de réforme de l'armée, l'intégration aussi de ces rebelles dans un processus de paix. Et quelles sont les garanties?
La signature du pacte national le 11 avril 1980. Depuis le pacte national, il y a eu d'autres rébellions et chacune d'entre elles a été effectivement sanctionnée par un accord qui prévoit toujours l'intégration des rebelles dans l'armée. Et chaque fois, ce sont les intégrés qui sont ressortis après avoir connu tous les rouages à l'intérieur de l'armée pour aller animer une nouvelle rébellion. Donc c'est justement pour cela que quand il a été question à Alger de l'intégration des rebelles, il y a eu beaucoup de manifestations au pays pour dire non, nous ne sommes pas d'accord pour l'intégration des rebelles. Cela dit, cette fois-ci, il y a eu non seulement nous quatre, les groupes armés, ceux qui voulaient l'indépendance de l'Azawad et puis ceux qui étaient des milices d'autodéfense, plus le gouvernement algérien et le gouvernement malien, tous les pays voisins du Mali, le Nigeria, la CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde nous a fait comprendre que la moins mauvaise solution, c'est justement encore de les intégrer. Parce que si on ne les intègre pas, ça signifie qu'ils n'ont pas un gagne-pain. Mais il y a surtout que l'accord de paix inclut en soi plusieurs projets et programmes de développement des régions du Nord. Le Mali a obtenu une promesse de 3,5 milliards d'euros à Bruxelles. Quand on va investir tout ça, c'est beaucoup de routes, d'écoles, de centres de santé, mais c'est aussi des projets d'élevage, d'agriculture. Quand tout ça va être fait, toute personne ne pourra venir dire « je me révolte parce que je considère que les régions du Nord sont négligées ». On ne peut pas dire que nous avons une garantie que les rebelles intégrés ne vont pas encore une fois créer de nouvelles rébellions. Mais nous pensons que l'accord de paix prévoit aussi des réformes politiques importantes. Tout ça là nous permet d'espérer que, voyez, il n'y aura pas d'autres rébellions.
Tienan Koulibaly, ministre malien de la Défense.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de lutte contre le VIH-Sida et du phénomène des perdus de vue.
Il s'agit des personnes dépistées positives et qui ne sont pas revenues en consultation depuis plusieurs mois avant ou après avoir commencé le traitement.
Pour comprendre les raisons d'être de ce phénomène, nous recevrons comme invité Israël Ganoé, secrétaire général du réseau ouest-africain des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Nous écouterons aussi le docteur Frank Kassissa, médecin généraliste en RDC. Il nous parlera des conséquences pour ceux qui ne prennent pas ou arrêtent de prendre leur traitement.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Situé sur la corniche ouest de Dakar, Soumbédioun est un petit village traditionnel de pêcheurs au cœur de la capitale sénégalaise. Doté d'un village artisanal en 1961 à l'occasion du Festival mondial des arts nègres, Soumbédioun devient un haut lieu touristique. Cependant, la pêche demeure la principale activité de cette localité, essentiellement composée de lébous, mais très ouvert aux autres communautés. Soumbédioun est aussi un endroit assez traditionnel au milieu de la modernité dakaroise. Sedina Abagay.
C'est la capitale qui est venue à Soumbédioun, car Soumbédioun existait bien avant que Dakar ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui.
Issa Fall, président du comité local des pêcheurs de Soumbédioun, affirme que cette terre de pêcheurs est antérieure à l'existence de la capitale.
Je suis confié d'exercer l'activité de vie pour que Dakar soit la capitale.
Nos ancêtres ont exercé la pêche sur ce site pendant longtemps. C'est par la suite que Dakar est devenue capitale, englobant ainsi ce village de pêcheurs. Cependant, Soumbédioun n'est pas un site encombrant car nous avons su adapter notre activité à la capitale. Soumbédioun est différent des autres sites de pêche. Nous avons des pirogues de taille moyenne. En plus, là où les autres vont à la mer le soir, nous y allons le matin pour revenir l'après-midi. Ainsi, nous avons des heures de travail conformes à celles de la capitale.
Soumbédioun, c'est aussi une solidarité envers les autres communautés de pêcheurs du Sénégal.
De temps en temps, nous avons des saisonniers qui sont là.
De temps à autre, nous accueillons des saisonniers qui viennent de Kayar, de Rufisque, Saint-Louis et d'un peu partout du Sénégal pour pêcher dans nos eaux avant de retourner chez eux. Nous, par contre, nous allons rarement pêcher dans d'autres zones. Mais au nom de la solidarité Lébou, nous accueillons des pêcheurs qui viennent s'installer définitivement. Nous leur donnons des terres et du travail. Certains finissent même par se marier ici, ce qui crée un brassage exceptionnel.
Les poissons débarqués des pirogues de Soumbédioun alimentent le marché qui se trouve à quelques mètres du quai. Adia Marem Ndiaye y est présente depuis plus de 30 ans.
Nous achetons les poissons dès leur débarquement des pirogues. En général, les prix sont très abordables grâce à nos excellentes relations avec les pêcheurs. En plus, nous avons la possibilité d'acheter chez plusieurs fournisseurs, ce qui nous permet d'avoir différents produits et attirer une clientèle très variée.
Loin de la bonne santé du marché aux poissons, le village artisanal de Soumbédioun perd de plus en plus son attractivité. Serigne Fallou Diop, vendeur d'œuvres d'art depuis 10 ans, tire la sonnette d'alarme.
Le paradoxe, c'est que nous avons plus de clients locaux qu'étrangers. Les touristes viennent de moins en moins et c'est vraiment dommage car avant ils venaient par dizaines à bord de bus, taxis et j'en passe. Les ventes marchaient tellement bien qu'on n'avait même pas le temps de discuter ou même de prendre le thé. Les temps ont changé et ce, de la pire des manières. Nous souhaitons un soutien des autorités pour éviter la faillite de ce lieu touristique et la perte des centaines d'emplois qu'il fournit.
Soumbédioun, vitrine de la tradition sénégalaise au cœur de la capitale, vit des jours difficiles. Jadis fleuron du tourisme sénégalais, son village artisanal attire de moins en moins de monde, au point que les acteurs sollicitent les autorités pour que Soumbédioun retrouve sa splendeur. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h/24. Recrudescence de filles de la rue en Centrafrique depuis la crise de 2013, alors que les centres de protection de l'enfance se font rares, selon la députée et militante des droits humains, Béatrice Epaye, présidente de la fondation Voix du Cœur, qui recueille des enfants sans domicile. Nathalie Barge a joint l'ancienne ministre à Bangui, où elle a ouvert l'an dernier le foyer de Damala, abritant des dizaines de filles entre 7 et 18 ans, victimes de violences dans la rue.
C'est des enfants qui ont été dans leur famille et il y a eu la crise. La famille s'est appauvrie puisque les maisons ont été détruites et ils se sont retrouvés souvent dans les sites des déplacés. Et la famille fragilisée dans un environnement très dur. Les filles ont été atteintes dans leur intimité.
Vous voulez dire qu'elles ont été victimes de violences?
Voilà, elles ont été victimes de violences. Des gens qui portent les armes et aussi d'autres enfants qui sont dans la rue, qui les agressent aussi. Et après, si la famille voit qu'il y a eu des violences à l'égard de la fille, c'est la honte. Et c'est le silence d'abord des familles. Mais l'enfant sent, les filles sentent que les familles ne veulent plus d'elles. Donc elles rejoignent les enfants de la rue. Et nos éducateurs qui travaillent en milieu ouvert, qui travaillent dans les rues, sur les sites des déplacés, sur les marchés, recueillent ces filles, les amènent, on les écoute et on essaie de faire quelque chose pour elles.
Combien avez-vous de filles actuellement dans votre centre?
Le centre, nous l'avons créé en juin 2016. Donc si on avait plus de places, on allait avoir beaucoup d'enfants. Mais on a une capacité d'accueil journalière de 50 enfants. On a des transits, c'est pas un internat. On réhabilite l'enfant durant un délai et puis on prend contact avec les familles. On essaie de renouer l'enfant avec la famille et on suit l'enfant même étant dans sa famille. Donc nous avons croisé 58 enfants. Ça, c'est juste un foyer dans un quartier. Mais on aurait voulu que ça soit dans l'ensemble du pays et qu'à Bangui, qu'il y ait au moins 3, 4, 5 foyers pour les jeunes filles. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à la place des filles qui sont chez nous. Mais on n'a pas les moyens pour couvrir tout le monde.
C'est alarmant, on l'entend, et cela devient un petit peu le cas dans plusieurs pays. De plus en plus de filles dans la rue qui sont très vulnérables, exposées aux violences sexuelles, vous en avez parlé. Est-ce que le gouvernement entreprend des actions spéciales pour les sortir de la rue de manière on ne peut plus urgente?
Le gouvernement, bon, ils ont démantelé des sites, hein, surtout le site de l'aéroport qui a duré 3 ans. Et les familles ont pu se reloger, mais travailler directement en ayant des abris pour les enfants violentés, je ne pense pas. Le gouvernement n'a pas encore pensé à ça. Et pour l'instant, c'est les organisations non gouvernementales qui essaient de faire des petites choses comme nous le faisons.
Béatrice Epaille, présidente de la Fondation Voix du Cœur et membre du Conseil national de la protection de l'enfance en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le chef du groupe État islamique, Abdou Bakr al-Baghdadi, a appelé ses combattants en Syrie et en Irak à résister à leurs ennemis. Il se serait exprimé dans un enregistrement audio qui a été diffusé. La date de l'enregistrement n'est pas connue, mais son message a été diffusé par Al-Furqan, maison de production, si l'on peut dire, du groupe État islamique. Yacouba Ouedraogo a joint Romain Caillet, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient et spécialiste de l'islam radical.
Ça a été diffusé par Al-Furqan, qui est effectivement un des médias de l'État islamique. Il n'y a absolument aucun doute sur l'authenticité de l'audio. C'est bien la voix d'Abou Bakr al-Baghdadi. Et manifestement, elle a été enregistrée récemment, puisqu'il fait effectivement référence à un certain nombre d'éléments des crises internationales. Notamment, il mentionne la montée en puissance de la Russie et surtout la crise avec la Corée du Nord qui menace le Japon, qui prouve effectivement que cet audio a été enregistré récemment. Quand précisément? Ça, on n'a pas de moyen de savoir.
Alors, il avait pourtant été donné pour mort.
Oui, effectivement, il a été donné au moins une cinquantaine de fois mort ces dernières années. Donc, c'est pas nouveau, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel des Américains et même les Russes avaient dit qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% de sa mort.
Abou Bakr al-Baghdadi a appelé ses combattants à la résistance en Syrie et en Irak. Il s'en est pris un à la Russie, à l'Iran, aux États-Unis. Le discours reste le même.
Oui, de manière générale, il n'y a pas grand-chose de changé. C'est-à-dire qu'il insiste sur la résistance et explique les recul par l'imposante coalition de tous les pays qui se sont liés contre l'organisation djihadiste et il exhorte de continuer à combattre les pays de la coalition. Ce qui est nouveau dans cet enregistrement qu'on n'avait pas entendu autrefois, c'est d'appeler à frapper les centres médiatiques de l'ennemi, en d'autres termes, les journalistes.
Le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak notamment, mais parvient tout de même à frapper par moments de façon sanglante dans le monde.
Oui, effectivement, il y a eu une petite contre-offensive qu'ils ont montée hier. Surtout, il y a eu un officier russe qui avait un grade de général qui a quand même été tué. Depuis que les Russes sont engagés, il y a quand même eu des pertes assez importantes. Il y a tous les attentats qui sont faits régulièrement. Malgré tout, même si l'organisation a des revers significatifs, ils continuent parfois de montrer certaines capacités d'initiative sur le terrain syro-irakien et puis surtout la menace permanente d'attentats dans à peu près tous les pays.
Il faut alors continuer à redouter ce groupe État islamique-là.
Absolument.
Romain Caillet, chercheur et spécialiste sur l'islamisme radical. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Lionel Gaïma pour la mise en onde. Souleymane Tarawali à la console. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez avec nous. Tout de suite, l'Amérique vous présentée par John Lyndon, consacrée aujourd'hui à l'ajout du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont dorénavant interdits d'accès au territoire américain. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.